bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Je suis ravie d'accueillir dans cet épisode Claire Tran, qui incarne à la fois la résilience et la détermination. Claire est comédienne, danseuse et cofondatrice de l'association Parents et Féministes. Elle s'engage, corps et âme, pour promouvoir une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours depuis ses débuts en tant que danseuse dans un monde rempli d'injonctions et de stéréotypes jusqu'à sa maternité qui a été à la fois un moment de joie et de lutte. Elle partage avec nous ses réflexions sur l'éducation non genrée, son expérience du postpartum et les défis de concilier sa passion artistique avec ses responsabilités de parent. Nous allons aussi explorer ensemble Catalyseur, qui a transformé sa colère en action, donnant naissance à l'association Parents et Féministes. Pour Claire, l'intime est politique, et chaque geste compte dans la lutte pour l'égalité et la justice. Au cours de notre conversation, nous allons aussi aborder la santé mentale, le risque de s'égarer dans l'engagement militant, et l'importance du partage d'expériences et des perspectives. Vous l'aurez compris, pour Claire, l'action est multiple, mais surtout, elle est liée au partage et à la transmission. Sans plus tarder, je vous laisse avec le récit captivant de Claire Tran. Bonne écoute! Bonjour Claire!
Bonjour!
Merci d'être au micro d'Elles agissent, je suis ravie de t'accueillir.
Merci, je suis ravie d'être là.
Bon, est-ce que tu veux te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, personnellement et professionnellement, comme tu souhaites, qui es-tu ?
Alors, je m'appelle Claire Tran, je suis actrice, ancienne danseuse et cofondatrice de l'association Parents et Féministes. Je suis également mère de deux enfants, un fils de 5 ans et demi et une fille de 3 ans et demi.
Bon, alors on va revenir sur ton parcours. Comment tu es arrivée à, justement, à créer cette association? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus de ton enfance, de ton chemin, notamment à travers la danse, puis qui a été un gros bloc, en tout cas, pour après ta réflexion autour de ton engagement féministe et ton engagement sur une égalité entre les sexes et après la transmission, notamment à ton fils? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça?
Alors, moi, je suis née dans les années 80 en Angleterre et mes deux parents étaient journalistes et je suis l'aînée de deux filles. Voilà, j'ai une petite sœur de 3 ans et j'ai commencé très jeune la danse classique. À l'âge de 3 ans, j'ai réclamé à faire de la danse et puis j'étais inscrite au cours de danse. Donc, voilà, rien d'anormal là. Je me suis retrouvée en juste corps rose et en chignon très tôt. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis prise de passion pour ça. Et j'ai très vite dit à mes parents, je serai danseuse. Voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie. Alors, je ne sais pas très bien comment j'ai su que c'était un métier, parce qu'il n'y avait pas de danseur ni de danseuse dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste.
Ah oui, non, c'est vraiment quelque chose qui t'est venu, ouais.
Je crois que j'ai aimé ça et que j'ai dû voir un ballet à la télé, tu vois, et voir que y avait des femmes qui se baladaient en tutu et que c'était une vie possible. Et donc très vite, mes parents ont vu que c'était une vraie vocation et que, alors j'ai eu de la chance, ils ont été très soutenants, donc j'ai intégré l'école de danse ensuite et puis j'ai fait sport-études à partir de mes 10 ans. Et en arrivant en France, c'est en arrivant en France que j'ai commencé le sport-études. Et puis, j'ai continué comme ça en évoluant au milieu de femmes et de filles. Parce qu'en fait, dans la danse classique, il y a très peu d'hommes. Il y a, je dirais en moyenne, peut-être 2 garçons pour 10 filles, quoi. Donc, on est sur une toute petite proportion de garçons. Et pareil, beaucoup plus de professeuses de danse que d'hommes. Oui. Et puis... je remarquais aussi que c'était toujours les mères qui emmenaient les filles à leur cours le soir.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais?
Ouais. Non, c'est vraiment un milieu féminin. et qui véhicule des stéréotypes féminins comme la légèreté, la grâce, la beauté, la maigreur.
Oui, surtout toi, au niveau sport-études, où là, on rentre dans une autre catégorie aussi, et tu vois encore plus les travers. Je pense que autour de la maigreur, voilà, c'est ce que j'avais envie de revenir aussi et de faire remonter comme idée, c'est qu'il y a en plus ça. C'est-à-dire que là, comme tu dis, ça ajoute à une obligation physique dans ton corps de femme d'être dans un moule, en fait.
Oui, effectivement, en plus de toutes ces, de ce, voilà, de ce, cet idéal de danseuse, il y a ensuite, quand on se professionnalise, et c'est souvent à l'adolescence, c'est plutôt même la préadolescence, en pleine puberté, qu'on commence les pointes, qu'on commence à vraiment rentrer dans le dur du travail. C'est à ce moment charnière de sa vie d'être humain que finalement, on nous dit, ah, alors maintenant, il va falloir rentrer dans un petit moule très précis. Il y a un corps idéal de danseuse, c'est ça, 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 ça. Donc évidemment, il y a la maigreur, mais il y a aussi plein d'autres facteurs. Je rentrerai pas dans le détail, c'est très technique, mais c'est des trucs impossibles en fait. Et ces injonctions, elles viennent s'ajouter aux injonctions de la société, qui sont déjà quand même nombreuses sur les jeunes filles.
Mais quand tu avais cet âge-là, tu t'en rendais compte ou pas, ou tu étais prise dans un espèce de tourbillon et puis c'était ta passion aussi?
Ouais, non, je m'en rendais pas compte. Je crois que c'était tellement. En fait, c'est le problème d'un stéréotype, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et en plus, comme j'étais très dévouée et que j'étais très résolue à devenir danseuse, j'ai accepté tout. Et la majorité des jeunes filles avec moi se pliaient totalement à ces règles-là. On se pesait, on se mesurait, on se faisait des tours de taille, on scrutait les assiettes des unes des autres pour être sûr que, voilà, on était dans la norme. Donc c'est pas pour ça que c'était pas difficile ou douloureux, mais par contre on l'acceptait.
Et ça faisait partie, comme tu dis, de votre norme, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis c'était
Est-ce que ça a pu engendrer des troubles aussi du
Ah bah
comportement
oui, du coup
alimentaire? Oui,
oui,
j'imagine.
énormément
Puis
de
physique aussi, voilà, de mental peut-être aussi.
Il y a moi j'ai connu beaucoup de jeunes filles anorexiques, boulimiques, il y a aussi des périodes dépressives qui peuvent avoir lieu. Moi, je me souviens avoir fait une petite dépression aussi quand j'étais au conservatoire. C'est des moments vraiment pas faciles et il faut ajouter à cela l'éloignement de la famille parce que beaucoup de. Quand tu rentres en sport études au conservatoire, par exemple, bah, les gens viennent de toute la France parce que c'est une école d'élite. Donc, tu es en internat et tu es loin de ta famille. Et donc, bah, tu as très peu de soutien moral. Et comme il y a beaucoup de compétition entre les élèves, bah, tes amis, parfois, c'est pas tes amis. Et donc c'est très compliqué. Moi j'ai eu la chance, ma famille était à Paris. Je suis quand même allée à l'internat, mais je rentrais le week-end et j'avais quand même, voilà, une proximité géographique avec mes parents qui faisait que j'étais pas totalement seule. Mais pour les gens qui viennent de très loin, c'était très
C'était une
dur.
rupture familiale aussi qui est impactante, c'est évident. Et donc la danse, tu as suivi ce chemin pendant combien de temps encore?
J'ai terminé le conservatoire à l'âge de 21 ans.
Ah
Ouais,
oui, oh là là.
j'ai fait ça
Quelle
jusqu'à mes
énorme partie
21
de
ans.
ta vie.
Ouais,
Non
c'était bah, toute mon enfance et mon adolescence.
Oui, puis jeune femme aussi, 21 ans, c'est...
Jusqu'à l'entrée à l'âge adulte, et ça a été une grande partie de ma vie, et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, en parlant aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a compté pour moi et à quel point c'était très présent, et ça a façonné ma façon de voir le monde. Mais effectivement, comme je te disais, sur le moment, on se rend pas compte, on est dans notre bulle, on a un planning très très strict, parce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bac. Au conservatoire, c'est obligatoire, donc on va à l'école, on fait le programme scolaire normal, mais en moitié moins de temps. Donc on a énormément de devoirs à la maison, il faut être quand même assez rigoureux.
Un rythme de dingue.
Ouais, moi je me rappelle, je courais tout le temps. Je courais pour aller en cours de danse, je courais pour aller à la cantine, je courais pour aller à l'école, je courais pour revenir prendre le cours du soir. On courait pour les cours particuliers, pour les concours, les machins. Et ça ne s'arrêtait jamais. Donc on n'avait pas trop le temps de réfléchir. Finalement, c'était
T'es
pas plus
dans
mal.
une cercle, une boucle là qui
Ouais.
s'enchaîne, quoi.
J'apparente ça un petit peu à un régime militaire.
Bah ouais, c'est strict et puis c'est beaucoup de rigueur, quoi. Donc il y a des similitudes, ouais, effectivement. Ouais. Et donc 21 ans, là, il y a un changement ici où tu t'as envie de continuer? Qu'est-ce
Ouais,
qui...
21 ans, je suis diplômée et en fait, au cours de mes études au conservatoire, j'ai bifurqué vers la danse contemporaine. À un moment donné, j'ai arrêté le classique parce que je rentrais plus dans le moule, hein, justement. Ça fonctionnait plus physiquement, et puis j'étais très malheureuse, en fait, de constater que j'allais pas devenir étoile, quoi. J'allais pas devenir la meilleure danseuse de France. Donc j'ai bifurqué vers le contemporain, où là je me suis beaucoup plus épanouie, où je me suis rendu compte qu'il y avait plus de possibilités, même d'emploi et d'épanouissement personnel. Et une fois diplômée, je suis rentrée dans des compagnies de danse, en fait. Mmh. On passe les auditions et on devient danseuse professionnelle, voilà, pour de vrai.
Ok.
Voilà. Et en même temps que je commence tout ça, je me rends compte que bon, c'est une vie difficile, parce que c'est une vie précaire, que les places sont chères et qu'il faut vraiment beaucoup aimer ça pour accepter le lot d'humiliation. Il faut vraiment beaucoup aimer ça pour accepter le lot d'humiliation que ça comporte, que d'aller dans des auditions avec des centaines de filles, d'avoir son dossard, d'aller très loin dans ce qu'on peut donner à un ou une chorégraphe. Et puis ensuite, si on a la chance d'être prise, de donner beaucoup de soi dans les périodes de création. De,
ouais.
Voilà. C'est un vrai don de soi, la danse.
Ouais. Et je me demandais autour de la danse et de ce que tu disais, la précarité, l'enchaînement, etc. Est-ce qu'aussi il y a la notion de l'âge, c'est-à-dire aussi à la fois pour les capacités corporelles, on demande de plus en plus au corps qui est déjà, j'imagine, plus usé quand on a entre 21 et 25 ans, enfin je sais pas, c'était à peu près cette période-là où... et est-ce qu'il y a aussi une discrimination à l'âge dans les castings, dans tout ce que tu as vécu?
Alors effectivement, on a conscience très jeune que la carrière va être très courte.
Ouais.
On le sait,
ouais.
C'est comme ça. Et donc c'est un peu une course contre la montre. Effectivement, on sait que ça, les belles années, elles sont plutôt autour de 25 ans. Je dirais que le pic d'une carrière de danseuse, je parle de la danse contemporaine, hein. La danse classique c'est encore autre chose. Et puis voilà, j'ai pas fait ma carrière dans un ballet, mais pour une danseuse contemporaine, on est au top à 30 ans. Entre 30 et 35 ans, c'est le moment où on a à la fois encore la forme physique, on a la maturité, on a le réseau, on a des choses à raconter, et on a une connaissance de son corps qui fait qu'on se blesse moins, on travaille mieux. Mais c'est aussi l'âge où on est censé faire des enfants.
Et j'allais dire, c'est aussi autour de la maternité, à quel moment on peut caler, parce qu'il y a un moment, c'est biologique aussi, où les chances diminuent, voilà, progressivement. En même temps, tu me dis que c'est le top à haut de 30 ans.
Mmh.
C'est une torture un peu tout ça, dans la tête, dans les envies, dans les projections.
Ouais, c'est une vraie torture. Mmh. Et ma psy pourra confirmer, on en a parlé pendant des années, de ce désir de maternité qui arrive à un moment où je suis censée travailler
au top.
Au top, quoi. Où je suis censée faire que ça et profiter de toutes les opportunités professionnelles.
Oui, et tous les sacrifices, j'ai envie de dire, que tu as fait... Mmh. Comment t'as jonglé tout ça, là, entre aussi ton propre chemin de vie, la rencontre, tes enfants, etc. Comment ça s'est imbriqué, toi, dans ta vie, tout ça?
Alors, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, déjà, j'étais en couple très jeune avec mon actuel compagnon. Donc, j'étais en couple stable. Donc, je savais qui allait être le père de mes enfants, a priori. Donc, ça, c'était fait. Après, j'ai aussi changé de métier vers l'âge de 27-28 ans. J'ai diminué mes activités de danseuse pour devenir comédienne. J'ai repris des cours de théâtre, j'ai fait une école et j'ai vraiment enclenché un processus de reconversion parce que la danse me rendait très malheureuse. Enfin, au-delà de la danse, c'était le métier de danseuse qui me convenait plus et j'avais vraiment envie de m'exprimer autrement. Donc, la reconversion m'a permise déjà de lâcher la grappe à mon corps, on va dire. Donc, tout d'un coup, aussi, je me suis aussi laissée un peu plus vivre. Et j'étais moins dans la contrainte physique et la fatigue physique. Donc ça a été aussi, je pense, un chemin qui m'a permis aussi d'envisager de devenir mère. Parce que si j'étais restée danseuse dans ma trentaine, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé un projet chorégraphique, la semaine dernière, avec 7 autres danseuses. Et ce projet porte sur la maternité et on parle vachement de ce sujet, d'être danseuse et mère. Et je me rends compte à quel point c'est incompatible, en fait.
Oui.
Donc, j'ai eu de la chance. J'étais comédienne avant de devenir mère. Et À un moment donné, mon désir de maternité, comme depuis toujours, j'avais envie d'avoir des enfants, j'ai su le mettre au premier plan. À un moment donné, je me suis dit, bon, allez. Et je me suis aussi dit que si je les faisais pas trop tard, j'aurais de l'énergie pour redémarrer aussi après une activité professionnelle. Et puis, j'avais envie d'être une mère quand même dynamique. Enfin, toutes ces questions que je pense que toutes les femmes qui travaillent se posent, en fait. Est-ce que je les fais jeunes, comme ça, après, c'est fait? Et j'ai l'énergie pour entreprendre, pour revoyager, refaire des choses. Ou est-ce qu'au contraire, je tire, je tire, je tire, je procrastine pour booster ma carrière maintenant et prendre mes congés maternité après, etc. Moi, je pense que toutes les femmes se posent ces questions. Et c'est ce qui explique d'ailleurs une certaine baisse de la natalité en France. Hein, c'est que on a du mal à la conciliation vie privée et professionnelle et... C'est quasiment impossible, quoi.
Qu'il y a une envie aussi un peu plus, enfin, plus forte des femmes d'avoir une carrière, justement, une envie de maîtriser, de plus justement devoir choisir tout le temps, quoi.
Ouais. Et non seulement avoir une carrière, mais avoir la même carrière que les hommes. C'est qu'en fait, on veut plus faire des demi-carrières, finir en 4-5e, épuisé et gagner moins d'argent. On veut exactement la même chose que les hommes. Donc, c'est là où ça frotte en ce moment.
Bon, et toi, t'es l'arrivée de tes enfants, surtout de ton premier, cataclysme, hein?
Cataclysme, ouais,
Explosion, je sais
cataclysme,
pas comment.
tsunami,
Qu'est-ce que tu
bouleversement,
peux nous
mais
raconter?
comme pour toutes les mères, c'est-à-dire que c'est, moi je raconte mon expérience de révélation féministe grâce à ce bouleversement, mais l'arrivée d'un premier enfant, de toute façon, c'est un bouleversement et c'est d'une banalité sans nom. Hein,
Mais on ne le vit pas toutes de la même manière et ça n'éveille pas pour toutes les mêmes choses.
certes, certes. Et
Toi, ça a éveillé, j'avais lu une colère qui t'a donné envie d'agir, que tu as eu envie de transformer en action. Ça m'a
ouais.
vachement parlé, cette phrase, parce que qu'est-ce qui t'a mis en colère déjà?
J'ai ressenti une grande colère de constater que j'étais seule, en fait. Que j'étais seule face à mon nourrisson, que j'étais seule dans mes douleurs de jeune mère en postpartum, que j'étais seule dans mes nuits blanches, face à mon allaitement, face à mes questions. Je me sentais vraiment abandonnée. Pendant 9 mois de grossesse, on est très accompagné, très cajolé, on est porté au nu, on est monitoré. Et puis l'enfant sort et tout d'un coup, bah, y a plus personne. On a peut-être 3 rendez-vous de sage-femme à la maison pour vérifier que tout se remet bien en place et que l'enfant prend du poids, et puis c'est tout. Et quand c'est le premier enfant, on ne sait rien. Et puis mon conjoint, il savait rien non plus. Donc en fait, lui, très vite, il est reparti travailler. Et encore, j'ai eu de la chance, il a pris un mois. À l'époque, c'était pas du tout la norme.
Parce que ton premier, à quel âge pour qu'on
Il a
puisse se
5 ans et
resituer?
demi, il est né en 2018. Et en 2018, le congé paternité, il était de 11 jours, dont 7 jours obligatoires. Et quand on est salarié, mon conjoint, il est chef d'entreprise, donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'estiment pas que même 7 jours, c'est
Ça passe à la
possible.
trappe, ouais.
Voilà. Il a pris un mois, donc j'ai eu énormément de chance de l'avoir quand même. Il était là physiquement, mais il y avait quand même des grosses lacunes et je lui jette pas la pierre et on en a beaucoup parlé depuis. C'est un truc structurel, c'est-à-dire qu'en fait les pères ne sont pas non plus préparés à accompagner ce moment de l'arrivée de l'enfant. C'est aussi un bouleversement pour eux et je pense que son absence a pesé, mais c'était pas que ça. C'était aussi l'absence de tout un entourage qui aurait pu être là pour me soutenir, m'aider, même logistiquement. Et j'ai voulu, comme en bonne danseuse que j'étais, serrer les dents et tout faire bien. Et bah, du coup, j'étais très en colère.
À quel moment elle est venue cette colère? T'arrives à l'estimer? Parce que j'imagine qu'au début, tu prends acte de tout ce qui t'arrive, enfin, tu subis ce qui se passe, ce qui t'arrive, l'arrivée de la naissance, justement, de te rendre compte de tout ça, justement, et cette colère.
En fait, j'ai commencé à écouter des podcasts et lire des livres féministes. C'est au gré de mes lectures et de mes écoutes que j'ai commencé à me dire, mais attends, ouais, c'est pas normal. Et ça, et ouais, elle a raison. Et puis oui, et puis moi. Et c'est les mots des autres, en fait, qui m'ont permis d'exprimer cette colère. Elle existait, elle était là au bout de 10 jours. Mais elle prenait pas encore de forme concrète.
Elle aurait pu être étouffée, aussi, si tu n'avais pas eu cette possibilité.
Peut-être.
De...
Ouais, peut-être que je l'aurais tout fait et j'aurais enfoui ça sous l'image d'Épinal de la femme très épanouie en tant que mère. Et en fait, bon, je crois que c'est pas mon caractère. je crois que c'est que j'accepte mal des situations de contraintes physiques et psychologiques. Je pense que, enfin, là, je parle, tu pourras couper parce que c'est complètement confus, mais le fait d'avoir arrêté la danse, je l'apparente aussi à une forme d'émancipation d'une contrainte physique et morale trop importante pour moi. Et cette colère et cet engagement que j'ai féministe vient du même endroit, en fait, hein, d'un refus d'obtempérer, quoi, de fermer ma bouche et d'être juste la mère très contente et qui se débrouille toute seule comme une chef. Donc, lecture, podcast. J'adore parler de ce podcast sur d'autres podcasts, mais j'invite tes auditeuristes à l'écouter. C'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qui a été un vrai pivot pour moi. L'épisode 4 sur les pères. Où je me suis vachement reconnue. Et puis dans ce podcast, c'est un documentaire, elle interviewe un groupe de femmes, un collectif de femmes, de mères justement, qui se sont engagées pour améliorer les conditions des mères à l'arrivée de l'enfant. Et donc j'ai contacté Charlotte Bien-Aimée de ce podcast en lui disant, mais j'ai adoré, qu'est-ce que je peux faire, je veux m'engager, en fait je n'en peux plus moi de subir ça et de voir que d'autres femmes le subissent. Et elle m'a simplement donné le nom d'une des femmes dans ce podcast. Et je l'ai contactée sur Facebook et on s'est mis en relation. Et on a cofondé par un féministe. Voilà, ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, en 3 mails.
Ah oui, ouais. En 3 mails, mais tu as fait la démarche d'agir justement, de ne pas rester avec cette colère et de dire « je veux faire quelque chose ». Et dans les prémices, dans le démarrage de cette envie d'action, tu avais envie justement d'agir sur quel aspect? Principalement, donc tu as dit de pas rester comme ça, mais justement d'informer, d'accompagner, de, tu vois, sur quel axe? Il y en a plusieurs, hein, certainement, mais
au début, quand on s'est réunis avec un petit groupe de mères pour cofonder Parents et Féministes, la mission première, c'était l'accompagnement et le soutien aux mères, parce qu'on était toutes mères de jeunes enfants ou de bébés, et on était toutes complètement mais révoltées, épuisées et par ce qui venait de nous tomber sur la tête. Et donc, on a commencé par imaginer des groupes de soutien, de parole pour les mères en congé maternité, pour les sortir de l'isolement, pour les sortir de chez elles avec leur bébé, en poussette, en écharpe, ou justement forcer un peu les mères à peut-être aller laisser une heure ou deux dans la journée. Et parce que de parler entre nous, ça nous a vachement fait du bien. Et donc on s'est dit, mais en fait, l'échange d'expérience, c'est aussi salvateur.
Bien sûr.
Tu te rends compte que toutes les mères, en tout cas beaucoup de mères, vivent la même chose. Donc ça, c'était la mission première, vraiment le soutien aux mères. Et ensuite, très vite, on s'est dit, mais il faut qu'on milite pour un congé paternité allongé et obligatoire. Parce que...
C'est la clé.
C'est la clé, c'est la clé quand même. Parce que la première personne qui peut soutenir une mère en postpartum, c'est le père des enfants, a priori, ou l'autre mère. Mais en tout cas, le coparent doit pouvoir être là plus que 11 jours,
oui, bien
7
sûr.
Jours.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous actionnez comme chose pour, sur le terrain, en fait?
Alors, dans le milieu associatif, on fait ce qu'on appelle du plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est l'équivalent pour les entreprises du lobby. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit des textes, on sollicite les pouvoirs publics, donc des députés, des institutions, on prend des rendez-vous et on leur explique, grâce à ces textes qu'on met à leur disposition, pourquoi il faut pousser pour un congé paternité plus long et mieux rémunéré. Et donc on a... Un des premiers textes qu'on a publié, c'était une tribune dans l'Obs pour un congé paternité plus long et obligatoire. Et à partir de là, on a commencé à avoir plusieurs relais dans la presse. Et on a été contacté aussi par le cabinet du secrétaire d'État à la petite enfance, Adrien Taquet à l'époque, qui venait de lancer une commission qui s'appelait les 1000 jours, les 1000 premiers jours de l'enfant. Et on avait été entendus, on avait préparé un grand dossier, un grand plaidoyer avec un volet parent et un volet enfant, avec des préconisations que nous faisions en tant qu'association de parents pour justement, notamment pour allonger ce congé paternité. Et on avait pu le soutenir, on leur a donné, toute la commission l'a lu, on a pu le soutenir devant le secrétaire d'État. Donc voilà, c'est des choses
Une
comme ça.
sacrée, oui, c'est déjà très bien, enfin, je veux dire, c'est
Ouais.
incroyable même.
On était très
Enfin,
fiers de pouvoir être
ouais,
entendus
c'est ça.
et que la commission ait, voilà, ait eu ce document. Et il se trouve que la commission, quand elle a rendu son rapport, avait préconisé un congé paternité beaucoup plus long et voilà, sans doute basé sur toutes les lectures qu'elle avait eues. Et quand le congé paternité coparent a été allongé en juillet 2021, on était à la fois ravis. Parce que bon, il y a eu un
Un vrai un acte
vrai.
là,
Ouais, pour le coup, il y a eu une amélioration des conditions. Et après, on a regardé d'un peu plus près et on a été un petit peu déçus. Je dois dire que on espérait quand même un avancement un petit peu plus ambitieux. Donc là, il est passé à 28 jours. Mais sur ces 28 jours, il n'y a que 11 jours d'obligatoire.
Oui, et dans les faits, c'est encore compliqué de l'appliquer. Enfin, voilà, concrètement, il y a toute cette politique d'entreprise, ce schéma de aussi pour les hommes, pour le coup, d'oser le poser et de le mettre en place, qui n'est pas toujours évident et toujours pas bien pris en compte et vécu dans le concret, quoi.
Oui, il y a encore un travail à faire sur la culture d'entreprise
Exactement.
et sur les pères aussi à imposer en fait leurs droits à prendre ces jours et à les prendre dans des bonnes conditions. Parce que si c'est les prendre et se taper des mails à la maison et en fait et être en faux télétravail ou se sentir coupable et ensuite revenir au boulot et à être croulé sur des dossiers parce qu'on n'a pas été remplacé.
Ça rappelle quelque chose quand même, ce que tu dis.
C'est un peu comme le congé maternité aussi, c'est la
C'est un
même chose.
peu le... Ouais.
Mais
Mais au moins, mais voilà.
pour le coup, ils vivent un peu ce qu'on vit aussi.
Exactement, ouais.
Et le jour où le congé paternité sera d'égale durée au congé maternité et qui sera bien rémunéré, donc les hommes seront incités à le prendre, et que culturellement ce sera admis que bah, en
Ce
fait
sera
un enfant
ancré.
a deux parents, que ce soit un homme ou une femme,
Et qu'il en a besoin, tout le monde en a besoin au début de sa vie, enfin voilà,
voilà.
les premiers
Et
jours.
qu'un enfant a plutôt intérêt à avoir ses deux parents avec soi au début de sa vie. Que c'est dans l'intérêt de l'enfant aussi d'avoir un moment d'attachement avec le deuxième parent. Une fois que ça sera mis en place, bah peut-être que ce plafond de verre, il va exploser. Puisque du coup, les carrières seront brisées pour les deux
Ouais,
sexes.
tout à fait.
Enfin, brisées. On parle de. Encore une fois, on parle de quelques mois. C'est-à-dire que dans une vie, qu'est-ce que c'est? Et dans une carrière, qu'est-ce que c'est? Je suis quand même hallucinée que, à l'échelle quand même d'une carrière, on puisse pas laisser les parents, et notamment les pères, prendre ce temps avec un nouveau-né. C'est quand même hallucinant.
On a l'impression d'être indispensable quand on tombe enceinte, ou qu'on va en congé mat ou paternité. Ouais. Alors que bon, on s'en sort. Hein.
Bah,
Mais il y a
comme
cette
si.
charge de se dire, mais tu vas pas être là pendant X temps.
Ouais.
Enfin,
Mais
ça,
c'est
c'est.
très culpabilisant. Et enfin, je suis désolée, mais le congé maternité est obligatoire pour les femmes. Et les entreprises se débrouillent très bien. S'il y a un délai de prévenance, on s'organise. Alors oui, effectivement, pour les toutes petites entreprises, l'auto-entrepreneuriat, c'est compliqué. Évidemment, mais ça, c'est au pouvoir public à trouver l'argent nécessaire pour que ce soit possible.
L'un de tes axes aussi d'action, c'est de partir du principe, du prisme que l'intime est politique.
Absolument. On dit qu'il n'y a pas de petits sujets et que tout est politique. La manière dont on éduque ses enfants, la manière dont on répartit les tâches domestiques et parentales, c'est politique parce que la manière dont on se comporte finalement, et on le voit avec MeToo, nos agissements, nos comportements ont un impact sur la société. Et concernant la. Moi, je pense vraiment que l'égalité dans la société ne peut commencer que dans le foyer. Si à la maison, il n'y a pas d'égalité entre deux parents, je prends l'exemple d'une famille dont les parents sont hétérosexuels, un couple hétérosexuel, parce que c'est le plus édifiant au niveau des inégalités. Si les parents ne sont pas dans ne tendent pas vers une égalité, comment est-ce que derrière. Alors, dans la vie, dans la société, dans le travail, on peut avoir envie ou l'idée même de répandre une égalité entre les hommes et les femmes. Je vois pas comment c'est possible. Et comment est-ce que... Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? C'est-à-dire qu'en fait, si à la maison, on reproduit un schéma patriarcal où la mère prend en charge toute la domesticité et le père va travailler et rentre le soir et n'en fait pas une, qu'est-ce que ça raconte aux enfants? Ils vont le voir. Ils vont le reproduire inconsciemment. Donc, évidemment que l'intime est politique. Mmh. J'en suis sûre.
Un des autres axes de ton engagement et de ton engagement, c'est autour de l'enfance sans sexisme. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous donner des clés aussi, peut-être à activer des choses simples du quotidien qu'on peut faire peut-être sans le savoir aussi, sans rendre compte?
Oui, alors dans l'association, très rapidement, comme on est une association de parents, on s'est toutes et tous rendu compte qu'un sujet qui nous intéressait beaucoup, une fois que nos nourrissons étaient devenus bébés, puis bambins, c'était comment est-ce qu'on les éduque pour devenir féministes, mais surtout pour être heureux et heureuses, qu'importe leur sexe, parce qu'on se sentait très responsable de ce qu'on inculquait à nos enfants. Et c'était empirique, hein. En fait, ce volet éducation non sexiste, ça m'est venu en fait en voyant mon fils d'abord évoluer au parc, à la halte garderie avec les autres enfants, et le regard que portaient les gens sur mon bébé, je voyais bien que il était tout à fait empreint d'idées préconçues, de stéréotypes de genre. Et ça m'a vraiment chagrinée de constater que vraiment, quand on avait un petit garçon, il fallait que ce soit un petit garçon et que ce soit très clair aux yeux de tous. Donc j'ai joué avec ces codes-là, je l'ai habillé en rose, en violet, j'ai mis des petits chemisiers à col, j'ai tout fait pour casser les codes. Et je voyais les regards inquisiteurs, je voyais que ça chagrinait vraiment beaucoup les gens. Quand ils me disaient « Ah, mais elle est mignonne, votre petite fille !» et que je leur disais « Bah, c'est un garçon !» Je voyais les fils se toucher et je voyais que c'était quelque chose qui n'était vraiment pas possible dans la lecture des gens. Et même des parfaits inconnus, hein, pas seulement ma famille et mes amis, c'était quelque chose de très compliqué à appréhender. Donc, après j'ai une fille. Et je me suis dit, oh bah chouette, je vais pouvoir expérimenter. Et donc ma fille a hérité du vestiaire de mon fils. Donc évidemment il y avait du rose, mais il y avait aussi plein d'autres couleurs. Parce que mon idée c'était quand même que tout soit possible. Donc il portait toutes les couleurs qu'il voulait.
Oui, tu vas pas le forcer à mettre que du rose, jouer à la Barbie, enfin voilà, on va pas tomber dans un...
Non, l'idée c'est pas de tomber dans l'excès inverse.
C'est ça.
Toute l'idée c'est qu'ils aient le choix. Et qu'ils comprennent que des couleurs sont des couleurs. Et qu'en fait, il faut... J'ai essayé de gommer les symboles. Mmh. Bon, après ça rentre à l'école, donc j'ai bien déchanté. Mais en tout cas, tant que j'avais de l'influence sur mes enfants... Ils mettaient de toutes les couleurs, et ma fille pareil, et elle mettait essentiellement des pantalons. Et puis dans l'association, c'était vraiment le sujet qui intéressait le plus les membres, et puis même le grand public sur Instagram, dès qu'on postait sur le sujet de l'éducation non sexiste, sur comment déjouer les stéréotypes sexistes, c'était les posts qui avaient le plus de succès. Les gens interagissaient, partageaient, posaient des questions... Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un sujet qui intéressait les jeunes parents. Enfin, je pense que, clairement, il y a un truc qui s'est passé ces dernières années, une prise de conscience des parents. Alors, c'est pas partout et dans tous les milieux, j'en ai conscience. Mm-hmm. Mais en tout cas, dans notre communauté, c'est un sujet qui travaille beaucoup les gens. Et ça me ravit parce que je me dis, bon, bah, on va peut-être arriver à faire quelque chose.
Ouais, ouais.
Sur les petits tips du quotidien, sur déjouer les stéréotypes. Il y a plusieurs choses que je fais. Alors, mes enfants ne lisent pas encore, parce que mon fils a 5 ans et demi, mais bon, bientôt il va lire et je ne pourrai plus faire la parade. Bon, déjà, j'essaie de choisir avec soin leur lecture. Et de, voilà, maintenant, il y a pas mal de lectures jeunesse, de littérature jeunesse quand même beaucoup plus inclusive et moins sexiste. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, si je vois un truc sexiste dans le livre, je vais modifier le texte systématiquement. Et maintenant, ça me vient naturellement. Et encore ce matin, je lisais à mes enfants, même un livre qui n'est pas spécialement sexiste, mais qui n'est pas, comment dire, en écriture inclusive, je vais moins inclure les femmes dedans. Donc je vais tout mettre au masculin et au féminin. Sans pour autant dire, par exemple, je sais pas, auditorice, par exemple, qui est un mot que, voilà, qui est nouveau, je vais dire les auditeurs et les auditrices. Comme ça, mes enfants entendent. Ou par exemple, je ne sais pas, pour un métier, par exemple, les métiers, j'aime beaucoup les féminiser, c'est hyper important. Va y avoir le coiffeur et la coiffeuse. Ou je ne sais pas, un métier, un avocat, une avocate, un policier, une policière. Donc les métiers qui sont en plus traditionnellement mis au masculin, systématiquement, je vais vraiment les mettre au féminin pour que tout existe. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais. Avec grand plaisir. Et puis je rajoute des adjectifs aussi, hein, parce que les princesses, elles sont belles, mais elles sont pas que belles. Donc je veux dire. Mais vraiment, j'anticipe. Je vois qu'il y a le mot princesse, je vois l'adjectif derrière, je sais que je vais rajouter intelligente. La princesse qui est belle et intelligente. Ou belle et qui a de l'esprit. Belle et drôle. Ou je vais carrément enlever le belle. Franchement, je passe mon temps à faire ça. Ça, c'est un truc que je fais. Je reviens sur le langage, tout mettre au féminin. Ou par exemple, si on est une majorité de femmes dans une assemblée, je vais tout dire au féminin, puisque c'est la majorité qui l'emporte. Voilà, je vais utiliser le mot toute si on est que plus de femmes que d'hommes. Et ça, bon, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ça infuse et puis moi ça me fait
Oui,
du bien.
ils baignent dedans en fait, donc
Ça peut devenir quelque chose d'assez normal au bout d'un moment. On a une pédiatre qui est femme, bon bah c'est de la pédiatre, mais parfois je vais dire la doctoresse. Et puis l'autre jour mon fils m'a dit, oh, bah, on va voir la doctoresse. Et je me suis rendu compte que c'était devenu naturel pour lui. Bah c'est des petites victoires du quotidien, ça.
Oui, il assimile ce métier aussi de prestige, de voilà, qui inclut des études. Un certain statut aussi à une femme, quoi.
Voilà.
Il le nomme.
Exactement. Nommer les choses, c'est important. Et ça, c'est quelque chose que ça fait pas très longtemps que j'ose vraiment maintenant assumer beaucoup plus à l'écrit et à l'oral l'inclusivité, remettre les femmes dans nos mots, parce que nos mots expriment notre pensée. Et c'est Noémie Delattre qui m'a beaucoup aidée à passer ce cap, à me donner le courage de le faire, et les éléments aussi, les outils intellectuels pour comprendre pourquoi c'est important. Et donc, il y a des pompiers et des pompières. Point barre. Sinon, quand on dit un pompier, ben, on n'y voit que des hommes. L'image mentale qu'on s'en fait, c'est des hommes.
Ouais, on se projette pas en tant que femme, en tant que pompier, quoi.
Voilà.
Ouais.
Ça m'anime énormément. Ma vie associative et mon engagement militant donnent beaucoup de sens à ma vie et me permet d'être moins en colère au quotidien. Vraiment.
J'allais te demander que ta colère, elle en est où là?
Bah, elle est intacte parce qu'elle est forte et d'ailleurs, presque je crois, elle grandit parce que j'ai conscience de plus en plus des inégalités, des discriminations, qu'en plus on est dans un monde qui va vite et avec les réseaux sociaux, on a connaissance de beaucoup plus de choses. On voit le nombre de féminicides qui augmente, on voit le rapport du HCE qui vient de tomber avec ces statistiques ahurissantes du recul en fait de l'idée de ce qu'est l'égalité filles-garçons. Et homme-femme. On voit MeToo qui ne cesse d'être en fait crié, scandé, mais en fait on voit l'impunité continuer. Et donc en fait je suis très très en colère, mais j'ai des outils pour la mettre en action. Et puis je suis entourée de femmes formidables. Il y a plein de féministes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, donc. Je me sens pas seule.
Je reviens quand même sur le point de la santé mentale. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et c'est vrai que l'engagement, parfois, épuise. C'est le cas pour toi?
Ouais, parfois je me sens un peu épuisée parce que c'est beaucoup de travail et puis c'est un travail bénévole, donc c'est un impact quand même aussi sur le quotidien et puis. Moi, j'ai cofondé l'association, donc je me sens une responsabilité aussi à la maintenir en vie, à la faire grandir. Et j'ai eu à un moment un gros down l'année dernière. Vraiment, j'étais très fatiguée. Et puis, j'avais perdu un peu le goût aussi d'être dans le quotidien d'une association. Donc, je suis plus aux manettes, je suis plus dans le conseil d'administration de l'asso. Mais je milite maintenant avec beaucoup plus de plaisir. Et je dis en fait, si je suis dans l'asso, mais que je suis malheureuse parce qu'en fait, je me sens obligée d'être dans un truc très rébarbatif, ou que je me sens obligée de faire les choses juste par principe, je vois plus l'intérêt. Moi, je veux un militantisme joyeux. Donc, je me suis retirée de ces fonctions-là. J'étais porte-parole et j'étais aussi dans un truc très quotidien de boulot un peu administratif. Et donc, maintenant, je fais que ce que j'aime, à savoir organiser les groupes de soutien entre mères mensuels à la Cité Audacieuse de la Fondation des Femmes, organiser les cafés féministes, qui sont des cafés des parents qu'on organise le dimanche, prendre la parole dans des super podcasts, répondre un petit peu à la presse, et puis être là aussi pour répondre aux questions des membres, parce que étant cofondatrice, on échange beaucoup. Donc je fais partie de la réflexion de groupe, mais je suis plus dans l'organisation.
Ok,
Et ça, c'est cool.
ça allège.
Ouais, ça allège un peu. Et ça, je trouve de la joie. Je retrouve de la joie militante. Je
Et c'est
retrouve du
ça.
sens et plus de temps pour moi, pour faire autre chose, parce que...
De l'énergie, voilà, pour relancer quelque chose peut-être de différent sous une nouvelle forme, enfin, voilà, mais en
Ouais.
tout cas d'être toujours engagé.
Exactement. Je lâcherai pas mon asso. Mon engagement, je pense qu'il est durable. Mais il a fallu que j'aménage un peu mon temps parce que... Mais c'est normal et je pense que c'est les périodes de vie aussi. Et les moments où on est à fond et c'est ça dont on a besoin et on est très efficace. Et puis les moments où on est un peu moins efficace. Donc il faut savoir aussi, il faut avoir assez de, comment dire, d'humilité pour dire en fait non, j'y arrive plus. Je fais plus de mal qu'autre chose. Donc je me retire. Je suis pas trop d'ego là sur ces trucs-là. Moi j'ai le pouvoir, ça m'intéresse pas beaucoup.
Est-ce que tu peux nous donner ta définition d'agir? Ça veut dire quoi pour toi?
Agir, pour moi, c'est... Agir, pour moi, je vais répéter trois fois le mot agir, le temps que je réfléchisse. Pour moi, agir, c'est se servir de sa propre expérience pour avoir de l'impact sur la vie des autres. Si j'avais pas vécu l'arrivée de mon premier enfant avec autant de difficultés, peut-être que je ne me serais jamais engagée en féminisme. Peut-être que j'aurais pas ouvert les yeux sur les discriminations faites aux mères et aux femmes. Peut-être que j'aurais pas vu tout ce pan-là. C'est vraiment la maternité qui m'a ouvert les yeux. Donc je le fais pour moi, pour me sauver moi. Et très vite, en fait, je le fais pour les autres. Et tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui a été le déclic. Une autre chose qui m'a vraiment donné envie de m'engager, c'est ma sœur a eu un enfant juste après moi et elle a très mal vécu aussi son postpartum et de la voir souffrir, ça m'a donné envie d'agir pour elle aussi. Donc c'était à la fois agir pour moi, mais agir surtout pour les autres. Parce qu'en fait, on n'a pas idée que ce qu'on vit est vécu par tant d'autres femmes et que parfois il suffit de le savoir pour aller mieux, en fait. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'avoir un impact pour d'autres. Donc c'est agir, c'est partager.
Et est-ce que tu as une femme au quotidien qui t'inspire, qui est un symbole aussi de l'action, d'agir, qui pourrait passer éventuellement au micro d'Elles agissent, en tout cas, qui est une de ces femmes qui, comme on le disait un peu en off tout à l'heure avant d'allumer le micro, qui justement nous inspire au quotidien et est ce moteur de l'action?
Là, spontanément, j'ai envie de parler de Ève Simonet. C'est une nana, c'est une femme incroyable qui agit. Pour le coup, quand tu me dis une femme qui agit, je pense tout de suite à elle parce qu'elle est tout le temps dans l'action. Et elle force mon admiration parce qu'elle ne se repose jamais. C'est une entrepreneuse, donc elle a créé sa propre boîte. À la base, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait réalisé un documentaire qui s'appelle Postpartum. Et elle a documenté son postpartum et elle a fait venir des intervenantes pour parler de ça justement. Des sages-femmes, des doulas, moi, je suis intervenue dans son film. Et ensuite, elle a créé Club Poussette, qui est des réunions entre mères dans des parcs, justement pour rompre la solitude des femmes et pour créer des communautés de femmes, etc. C'est totalement gratuit parce qu'on se retrouve dans les lieux publics. Et elle mène ça, mais incroyablement bien. C'est national en plus, donc elle a plein de petits groupes de femmes. Je crois qu'elle s'appelle entre elles les Tata, qui organisent ces rendez-vous dans les parcs. Elle a ensuite créé sa plateforme de streaming féministe qui s'appelle On Suzanne, que vraiment je vous invite à aller voir parce qu'il y a des films incroyables, et elle produit des documentaires féministes. Et le dernier qui vient de sortir, c'est sur les seins. Ouais. Et Eve, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais, et elle a pas eu des années faciles avec l'arrivée de son enfant. Elle en parle très ouvertement, elle s'est séparée du père de son enfant, elle a eu un enfant qui a très peu dormi. Et en fait, ce qui me touche chez elle, c'est aussi sa transparence, c'est qu'elle se sert de ses propres expériences, de sa propre vie, pour montrer qu'on n'est pas seul et pour montrer qu'il y a des moyens de s'en sortir, qu'on peut se battre, parfois que c'est difficile. Et sa grande sincérité me touche vachement. Et puis elle transforme. Elle transforme son désarroi, sa colère en action, et elle emporte des femmes avec elle. Mmh. Elle crée de l'emploi. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'elle fait. Donc Eve vient sur le podcast d'Émilie.
Merci pour le coup de pouce parce qu'elle est souvent. Je l'avais déjà proposé, mais elle était sous l'eau et pas le temps.
Mais elle a pas le temps. Cette femme, je sais pas combien d'heures par nuit elle dort, mais c'est incroyable.
Ouais. Merci beaucoup Claire pour ce moment. Et pour être revenue sur ton parcours, sur ton engagement. Et bravo. Et merci pour ce que tu fais aussi.
Merci à toi. Et la lutte continue.
Oui.
J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles Agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.bsophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagissent.com. À très bientôt.